7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
7h42, beaucoup de sujets qui intéressent Charlie Hebdo sont au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, de la laïcité à la question de la liberté d'expression. Bonjour Rhys.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur, vous dirigez Charlie Hebdo et vous publiez un témoignage, 1 minute et 49 secondes, un récit où il est notamment question de l'attentat contre Charlie Hebdo, un récit qui est un récit de colère et de combat. On se connaît un peu, mais on va faire comme si on ne se connaissait pas, Rhys. Et je vais d'abord vous demander pourquoi vous avez décidé de publier cela sous forme de récit et pas sous forme de dessin, alors que vous êtes dessinateur.
C'est vrai que c'est une question qui s'est posée, mais en fait, je dirais que dessiner m'aurait obligé à dessiner et à représenter ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Je voulais pas le représenter. Je préférais utiliser les mots et les images et plutôt que d'imposer au lecteur un contact direct visuel avec les choses. Voilà, c'était. Je pense que le dessin aurait été peut-être trop brutal. Et puis, je pense que l'écriture permet d'aborder les choses de manière moins difficile, on va dire.
Vous racontez dans ce récit, Rhys, à quel point il a été difficile pour vous de faire face aux photos, aux récits de cet attentat et comment, par exemple, lorsque vous étiez à l'hôpital, car vous avez été blessé grièvement à l'épaule, vous racontez comment vous avez cherché à échapper à ces photos.
Oui, c'est vrai que ce qu'on appelle la couverture médiatique, c'est quelque chose qui se déchaîne, c'est comme un tsunami, vous pouvez rien contrôler et vous prenez ça en pleine figure. Donc c'est vrai que à l'hôpital, j'étais un peu préservé de tout ça et je me préservais de tout ça. Je ne regardais pas la télévision, je regardais très peu de journaux et c'était uniquement quand je descendais au kiosque de l'hôpital que je parcourais les couvertures des magazines. Et ça me suffisait. J'avais pas trop envie d'aller plus loin dans la vision que les médias donnaient de ça. Parce que la vision de cet événement, je l'avais moi et elle me suffisait amplement.
Quelle était cette vision?
C'est ce qu'on vit physiquement, émotionnellement, moralement. C'est l'expérience de la violence, c'est la mort autour de vous de gens qui vous sont proches. C'était bien assez pour moi comme ça. Voilà.
1 minute 49 secondes, c'est donc le temps durant lequel les frères Kouachi sont restés dans la rédaction de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, le temps de perpétrer leur massacre. Quel souvenir avez-vous de ce moment-là, Rhys?
D'abord, c'est toujours un peu, c'est confus. C'est confus parce qu'on ne comprend pas immédiatement ce qui se passe. Et quand on comprend ce qui se passe, on entre dans une espèce de phase de protection presque animale, bestiale, quoi. On est ramené un peu comme une bête traquée. On se couche et on pense qu'on va échapper au regard des tueurs qui sont là à côté de vous. Donc on est dans, le monde se rétracte. Et le temps se rétracte aussi et on attend le moment où vous serez frappé par les tirs. Voilà, ça semblait inéluctable et c'est ce qui est arrivé. Par chance, ça n'a pas été un coup fatal, mais oui, c'était j'attendais ça. Il n'y avait pas le choix, il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre. C'était comme une sentence qui était prononcée contre vous. Et la sentence allait être exécutée là, dans les secondes qui allaient arriver. Je ne savais pas quelles secondes ça allait intervenir, mais ça allait intervenir. Voilà.
Et puis vous avez attendu, vous avez compris qu'ils étaient partis, que les frères Kouachi étaient partis, Rhys.
Alors, vous dites les frères Kouachi, à ce moment-là, on ne sait pas qui sont ces gens-là. On ne sait même pas combien ils sont. Est-ce qu'ils étaient 3 ou 4 ou 5? On n'a pas une bonne vision de l'ampleur des choses, ni même d'ailleurs du bilan, qui a été touché ou pas, ou qu'est-ce qui est arrivé aux autres. Mais c'est vrai que ne sachant rien, et étant couché à plat ventre, face contre terre, on continue en fait de tenter de ressembler à un meuble, de devenir un objet et de ne pas bouger comme un objet, de faire oublier à ceux qui sont à côté de nous et qui nous tirent dessus, de faire oublier qu'on est des êtres humains et de leur faire croire qu'on est des meubles inoffensifs, et voilà, pour essayer d'échapper à leur furie. Et puis donc il y a des périodes de silence, mais qui sont des silences inquiétants parce qu'on ne sait pas s'ils sont vraiment partis, s'ils sont encore là. Et en fait, ils étaient encore là, ils passaient, vérifiaient si tout le monde était bien mort. Et au bout d'un moment, j'ai entendu des coups de feu lointains. Donc je me suis dit, il se passe quelque chose à l'extérieur. Je me suis dit, ils ont dû sortir, ils ont dû entrer en contact avec peut-être d'autres personnes. Mais je savais pas s'il y avait encore des gens dans l'immeuble, ou même dans l'immeuble, donc on n'avait aucune information. Donc quand on manque d'informations, on reste immobile, quoi.
Ça n'était pas la première attaque contre Charlie Hebdo. Il y avait eu déjà un cocktail Molotov lancé contre le journal suite à la publication des caricatures de Mahomet. Est-ce que lorsque vous alliez au boulot, Rhys, vous aviez la sensation de risquer votre peau ?
Non, parce que on a toujours fait en sorte d'être assez prudent. Rue Nicolas Appert, rien n'indiquait le nom de Charlie Hebdo, il fallait vraiment le savoir. D'ailleurs, les assaillants ont mis du temps avant de trouver, c'est un peu par hasard qu'ils sont tombés, parce qu'il n'y avait aucune inscription. Donc, et puis on se sentait protégé aussi par la police qui était avec nous. Donc il n'y avait pas de signe réel. Évidemment, il peut toujours se passer quelque chose, mais il n'y avait rien de bien réel qui donnait l'impression que quelque chose allait se passer là, maintenant, tout de suite. Là.
Vous dites dans votre livre 1 minute et 49 secondes que ce geste, le geste perpétré par les assaillants, comme vous les appelez, est un geste politique, c'est un assassinat politique.
Oui, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on cherchait à nous liquider, nous, pour ce que nous étions. C'était pas comme souvent dans les attentats, un attentat aveugle, où des gens jettent des bombes pour tuer des passants anonymes. C'est comme une exécution politique, quand on exécute un opposant politique. Voilà, on exécute telle personne, telle personne, telle personne, parce que telle personne dit ceci, telle autre personne dit cela. Et dans le cas qui nous concerne, je pense que certains comme Charb étaient précisément visés. Donc c'est pas un attentat aveugle.
Charb, qui est donc l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo et qui est l'une des victimes de cet attentat. Si c'était un attentat politique, quel était le parti de Charlie Hebdo ? Quelles étaient les valeurs que le journal défendait et qui ont été visées dans cet attentat ?
On le sait, Charlie Hebdo avait publié des caricatures en 2006 de Mahomet, mais on l'a souvent dit, pour nous, ça s'inscrivait dans la ligne éditoriale du journal, qui est de ne pas se soumettre à l'autorité d'aucune puissance religieuse ou d'aucune, voilà. Donc c'était logique, mais c'est pour ces gens-là, c'était de trop. C'était un affront inacceptable. Et les caricatures ont été publiées en 2006, l'attentat a lieu en 2015, c'est-à-dire quasiment 9 ans après. Donc ce qui était sidérant, c'est que 9 ans après, pour ces gens-là, c'était pas terminé. Alors que, honnêtement, pour moi, 9 ans après, enfin, à l'automne 2014, j'avais dit à Charles, mais ces histoires, c'est fini. J'avais fini par me convaincre que c'était terminé, tout ça.
Voilà. Rétrospectivement, c'était une bonne idée de publier ces caricatures ?
C'est vrai que c'était ni une bonne ni mauvaise idée. C'était dans la ligne éditoriale du journal. Voilà, c'était dans la continuité de nos convictions. C'était nos convictions. Donc, une conviction, c'est pas une bonne ou mauvaise idée. Voilà, on défend ses convictions.
Il y a dans ce récit 1 minute et 49 secondes à la fois votre existence personnelle, donc vous êtes grièvement blessé à l'épaule, vous êtes à l'hôpital avec d'autres membres de la rédaction de Charlie Hebdo, et puis il y a aussi des commentaires politiques plus généraux. À titre personnel, il y a une chose qui vous attire, qui est obsessionnelle. Vous pensez que dans ce lieu de l'attentat, vous avez oublié votre trousse, Rhys.
Oui, quand les levées ont été scellées, les scellés ont été levés plutôt, Je voulais être là parce que naïvement, je pensais que j'allais retrouver des objets que j'avais laissés, dont cette trousse qui était un objet que je traînais depuis des années et des années. C'était un objet symbolique. Je crois j'essayais de retrouver un objet de ma vie d'avant. J'essayais de me convaincre que je pouvais continuer ma vie avec les mêmes objets qu'avant. Et c'est vrai qu'en ne la... Bon, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, ça actait le fait que quelque chose de ma vie d'avant avait disparu. Voilà, c'est un objet symbolique, quoi, qui avait une fonction symbolique.
Et puis sur le plan politique, il y a de la colère. Alors, on va voir ce qu'il y en avait avant l'attentat, mais en tout cas, il y en a après. Et là, vous ne mâchez pas vos mots, puisque vous considérez qu'il y a eu en France des collabos, c'est ça le mot,
Riz ? Oui, oui, oui. Bah, c'est un terme que j'utilise. C'est bon, ça fait référence, c'est vrai, à une période de l'histoire de France bien précise, mais pour moi, c'est un terme un peu générique qui définit les gens, je pense en particulier à des intellectuels, des penseurs, qui, face à différentes formes de totalitarisme qu'on a pu rencontrer dans l'histoire, finalement s'accommodent de ça. C'est pas uniquement durant la période de 40-45, mais c'est aussi pendant la période stalinienne aussi, et aussi pendant cette période où on voit émerger une forme de totalitarisme religieux. Il y a toujours des intellectuels ou des écrivains ou des politiques qui s'en accommodent. Voilà. Donc et ça pose problème parce qu'on est quand même dans une démocratie. Moi, j'ai confiance, une confiance peut-être naïve, mais je pensais que les choses qui me semblaient évidentes pour moi, finalement, l'étaient pas forcément pour tout le monde.
Vous savez que je vais vous demander des exemples. Qui sont ces collabos ?
En fait, je vais vous dire franchement, on peut citer 2-3 noms, mais je pense que ça mériterait mieux que 2 ou 3 noms. J'ai toujours pensé que il faudrait presque faire un autre livre là-dessus pour lire, décortiquer tout ce qui s'est dit sur cette période-là et même avant dans le monde politique, intellectuel. Je crois qu'il y a un vrai travail d'historien qu'il faudrait faire, que je suis pas en mesure de faire, mais qui permettrait de savoir qui a dit quoi et de comprendre aussi quelles ont été les positions des uns et des autres. Mais des fois, je me dis que c'est peut-être trop tôt. Peut-être que c'est la génération d'après qui sera suffisamment distante avec ces événements pour pouvoir bien analyser ça. Moi, c'est vrai, je suis pas objectif et je peux pas être objectif. Mais j'ai écrit ça pour au moins attirer l'attention du lecteur sur cette question-là.
Bon, alors certains intellectuels, certains commentateurs ont dit à l'époque, Charlie Hebdo se moque des musulmans au travers de ses caricatures de Mahomet, alors même que les musulmans sont déjà dans une position de domination. C'est-à-dire finalement, vous attaquez le faible, Riz.
Oui, bah, c'est un vieux classique, c'est simpliste, parce qu'on sait très bien que qu'est-ce que c'est qu'un musulman ? C'est très divers, les musulmans, il y a toutes sortes de musulmans, l'islam c'est grand, donc on voit très bien que ce que Charlie critique, c'est l'intolérance religieuse. C'est quand même un peu plus précis que les musulmans, ça veut rien dire les musulmans. Comme si on disait les catholiques ou les chrétiens, il y a tellement de sortes de tendances. Non, c'est contre, effectivement, une forme d'obscurantisme, de pratiques religieuses réactionnaires et rétrogrades, qui à un moment donné se heurte avec des valeurs démocratiques, de liberté, voilà. Donc c'est précis. Enfin, on a toujours été précis à Charlie Hebdo. Enfin, on n'a pas fait d'amalgame. Et ceux qui nous accusent de ça le savent et sont pas honnêtes.
Vous êtes islamophobe ?
Pas du tout. Moi, je pense que quand on est démocrate, on doit être optimiste et il faut pas non plus être dans la peur, parce que l'islamophobie c'est la phobie. Moi, j'ai pas peur de l'islam. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai peur de rien, mais je ne veux pas vivre sous la domination d'une idéologie, quelle qu'elle soit, politique ou religieuse. Voilà, c'est ça le critère. Et si malheureusement dans l'islam il y a des tendances qui vont dans cette direction, c'est pas de l'islamophobie. Moi, je suis anti-totalitaire, si je puis dire. Voilà.
Mais est-ce que ce totalitarisme-là, je parle donc de ceux qui se sont radicalisés, n'est pas la conséquence d'une situation sociale particulière ? Ce sont encore une fois des dominés, en quelque sorte des victimes risques. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation des choses ?
C'est, je dirais que c'est un peu un vieux classique dans les discours de gauche. Effectivement, les damnés de la Terre ne peuvent pas être autre chose que des damnés de la Terre. Et et comment dirais-je, sont presque condamnés à se révolter de toutes les manières possibles. Non, je suis pas d'accord. On peut effectivement se révolter contre une situation sociale injuste et contre effectivement des phénomènes de domination qui existent. Ça existe économiquement, culturellement. Mais je pense pas que ce soit en assassinant des journalistes qu'on combat ça.
Justement, lorsqu'on est journaliste, généralement, sauf dans quelques cas précis, peut-être les journalistes de guerre, on n'a pas la sensation de risquer sa peau. À Charlie Hebdo, en tout cas, hélas, des gens l'ont risqué. Vous êtes sûr vraiment qu'on n'a pas de raison d'avoir peur ?
Ah mais moi, j'ai jamais considéré que le fait d'être dessinateur de presse et même journaliste était un métier, sécurisé. Au contraire, j'ai toujours pensé que ça pouvait être dangereux. Parce qu'à partir du moment où on exprime des opinions franches, on peut se mettre en porte-à-faux avec des pouvoirs politiques, que ce soit dans le pays où on habite, mais même quand on va à l'étranger. Quand on va à l'étranger en reportage, il faut faire attention à ce qu'on fait, où on met les pieds. Enfin, il m'est arrivé souvent d'aller en reportage à l'étranger. Ben, vous faites gaffe à ce que vous faites. C'est pas parce que vous avez votre carte de presse que vous pouvez vous balader partout dans le monde et faire n'importe quoi. Donc, j'ai jamais considéré qu'être journaliste, c'était un,